VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en universel du mercredi 18 avril 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington, voici les titres. En RDC, Constant Omari, le président de la Fédération de football en garde à vue depuis hier pour une affaire de corruption présumée, a été libéré pour des raisons médicales, mais trois autres responsables sont toujours en détention. Au Zimbabwe, plus de 10 000 infirmiers licenciés pour avoir refusé de reprendre le travail. Le gouvernement avait pourtant consenti à une hausse de leur salaire. Le président américain Donald Trump confirme que le chef de la CIA a rencontré en secret le dirigeant nord-coréen. Parti Magazine, les responsables Paul et Dogon veulent ramener la paix dans le centre du Mali après les récents affrontements intercommunautaires.
Entre Peul et Dogon, il n'y a aucun problème. Les présidents des associations se côtoient, parlent ensemble, mangent ensemble, commercent ensemble et font tout ensemble.
N'arrêtez pas les informations sur l'économie et les sports. Tout d'abord, le journal. En RDC, le patron de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, qui était entendu dans une affaire de détournement de fonds, est rentré chez lui pour des raisons de santé, mais devra retourner demain. Mais trois autres dirigeants sportifs sont toujours en détention. Leur audition fait suite aux enquêtes initiées par le conseiller spécial du président Kabila en matière de lutte contre la corruption. Les détails avec Thierry Kambundis de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ils sont poursuivis pour détournement des deniers publics et privés et atteinte aux droits garantis aux particuliers, infraction prévue dans les articles 145 et 180 du Code pénal livre 2 en République démocratique du Congo. Ce mercredi, chacun des quatre détenus a été entendu par un magistrat instructeur qui devra au finish décider s'il doit ou non maintenir la garde à vue. Ces interpellations résultent des enquêtes ouvertes début avril 2018 concernant la gestion des fonds que le gouvernement congolais alloue aux équipes nationales et aux clubs pour leur participation aux compétitions internationales. Entre-temps, la Ligue nationale de football qui organise le championnat national en RDC a suspendu le championnat en pleine phase de play-off pour marquer sa solidarité avec Constant Omari, ses deux vice-présidents, selon un communiqué. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Niger, des heurts ont opposé ce matin les forces de l'ordre à des étudiants de l'université de Niamey. Ils exigeaient notamment la réhabilitation de cinq d'entre eux après avoir été exclus en mars dernier. On déplore des blessés. Ekiabadou.
Selon un habitant de Lamordé, un quartier proche de l'université, les affrontements entre les deux camps ont été violents autour et à l'intérieur du campus universitaire. Quant à Salla Kaila, un dirigeant du syndicat de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, il a déclaré que certains blessés étaient entre la vie et la mort et avaient été évacués au centre hospitalier universitaire à Lamordé. Pour l'instant, il y a un calme précaire, ajoute Salla Kaila. Pour sa part, le caméraman d'une télévision privée affirme qu'on a dénombré une quinzaine de blessés dont la plupart sont sévèrement atteints au ventre ou à la tête par des douilles ou l'éclat de grenades lacrymogènes. D'après Sita Djabiri, secrétaire général du même syndicat, les cours ont repris depuis quelques jours à l'université à la faveur d'une trêve décrétée par les étudiants pour donner une chance aux négociations avec le gouvernement. Les étudiants demandent également l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité sur le campus, en lieu et place du syndicat. L'université de Niamey avait été paralysée par une grève d'un mois des enseignants qui protestaient contre l'agression d'un des leurs par des étudiants. Le président Mahamadou Issoufou a promis début mars que le gouvernement veillerait à ce que le calme revienne à l'université en rapport avec tous les acteurs.
Au Nigeria, un vol qui est loin d'être un simple fait divers. En effet, le bâton de cérémonie sans lequel le Sénat ne peut pas se réunir a disparu, ce qu'a annoncé le porte-parole de la Chambre haute qui accusait des partisans d'un sénateur suspendu. Cette action est un acte de trahison car il s'agit d'une tentative de renversement par la force d'une branche du gouvernement fédéral du Nigeria et elle doit être traitée en conséquence, a déclaré Aliou Sabi Abdullahi. Ce n'est pas la première fois que ce bâton disparaît, son vol étant une manière d'exprimer son mécontentement sur le fonctionnement du Parlement. licenciement au Zimbabwe de plusieurs milliers d'infirmières en grève. Elles réclamaient de meilleures conditions salariales. Le point avec Eric Manerakiza.
Il s'agit d'un licenciement avec effet immédiat. Le vice-président Constantino Chiwenga a dit que le gouvernement agit dans l'intérêt des patients et pour sauver des vies. Il a accusé les grévistes d'être politiquement motivés. Conséquence, le général Chiwenga a annoncé le recrutement des infirmières au chômage et à la retraite pour remplacer celles qui ont été congédiées. Les 17 millions de dollars déjà débloqués et destinés à améliorer les salaires des infirmières serviront désormais à payer les salaires de nouvelles recrues, a-t-il précisé. L'Association des infirmières du Zimbabwe a pris connaissance de la décision et a souligné qu'elle restait en grève. Cette semaine, des malades n'ont pas pu accéder aux principaux hôpitaux. Le mouvement de grève des infirmières a été amorcé juste quelques semaines après la fin de l'arrêt de travail des médecins.
Les autorités sud-africaines ne sont pas contentes de la décision de l'Australie, invitant ses ressortissants à faire preuve de la plus grande prudence en raison du niveau élevé de criminalité dans ce pays. Il s'agit du deuxième incident entre les deux pays en l'espace de quelques semaines. En mars, le ministre australien de l'Intérieur avait suscité une vive polémique en Afrique du Sud en affirmant que les agriculteurs sud-africains blancs étaient persécutés en raison de violences criminelles et d'une politique de redistribution des terres. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a échappé à un attentat à la voiture piégée ce mercredi à Benghazi. C'est dans l'est du pays. Il est sorti indemne d'une tentative d'assassinat après l'explosion d'une voiture piégée au passage de son convoi, a indiqué le bureau d'information du commandement de l'armée nationale libyenne, autoproclamé par le maréchal Haftar. Mais un civil a été tué, un autre blessé, a indiqué une source hospitalière.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les préparatifs en vue d'un sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un ont connu une soudaine accélération aujourd'hui avec la confirmation par le président américain d'une rencontre secrète entre Mike Pompeo, directeur de la CIA, et le dirigeant nord-coréen à Pyongyang. Le point avec John Lindon.
Mike Pompeo a rencontré Kim Jong-un en Corée du Nord la semaine dernière. La rencontre s'est bien déroulée et une bonne relation s'est établie. Les détails du sommet sont à l'étude, a déclaré Donald Trump sur Twitter. La dénucléarisation sera un grand événement pour le monde, mais aussi pour la Corée du Nord, a-t-il ajouté, depuis sa résidence en Floride, où il passe deux jours avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Autre acteur clé du dossier. Interrogé sur une visite à Pyongyang de Mike Pompeo, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a salué des contacts directs et le dialogue entre le Nord et les États-Unis. C'est donc un vent d'optimisme qui souffle sur cette rencontre entre les États-Unis et la Corée du Nord. Mais bien avant ce face-à-face, le troisième sommet intercoréen depuis la fin de la guerre, prévu le 27 avril, pourrait lui être l'occasion d'aborder la question d'une déclaration officielle pour clore le conflit sur la péninsule. Le président américain a déclaré hier que le sommet entre Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in pourrait servir, avec sa bénédiction, à discuter d'un traité de paix.
En Turquie, les élections présidentielles et législatives auront lieu le 24 juin, soit un an et demi avant la date prévue initialement. En Syrie, une équipe de sécurité de l'ONU a été visée par des tirs dans la ville de Douma. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la mission d'enquête est retardée à cause de l'incident. Raissa Girondin.
Cinq jours après les raids américains, français et britanniques, l'enquête de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques n'a toujours pas commencé en Syrie. Les fonctionnaires onusiens, qui devaient préparer le terrain au déploiement des experts chargés d'enquêter sur l'attaque chimique présumée, ont été visés par des tirs à Douma. Ils n'ont pas été blessés et sont retournés à Damas, selon un responsable de l'ONU. Le chef de l'OIAC dit ignorer quand la mission d'enquête pourra être déployée. Du côté des pays occidentaux, on accuse le régime de Damas et les forces russes de faire obstruction à l'entrée de la ville de Douma, touchée par l'attaque chimique présumée. Du 7 avril. En face, les forces alliées de Damas sont étonnées de ces déclarations. L'accès des inspecteurs a été compliqué par le fait que des combattants restent encore à Douma, a rappelé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Le régime syrien vient de bombarder le dernier bastion du groupe État islamique dans le sud de Damas, contraignant les rebelles islamistes de quitter la région. Des opérations de transfert de civils et de combattants vers le nord syrien doivent commencer jeudi, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Et puis Bill Gates se met en garde contre une résurgence du paludisme, faute d'une volonté politique d'éradiquer définitivement la maladie. Le milliardaire américain a fait cette déclaration lors d'un sommet sur le paludisme qui s'est tenu en marge de celui des dirigeants des 53 pays membres du Commonwealth, c'est à Londres. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Herman Ungbourg qui nous présente la Minute Éco.
La croissance de l'Afrique subsaharienne devrait atteindre 3,1% en 2018 et s'établir à 3,6% en moyenne sur 2019-2020, prédit Africa Pulse, le rapport semestriel de la Banque mondiale qui analyse l'état des économies africaines et dont la dernière édition paraît aujourd'hui. Les prévisions de croissance tablent sur la stabilité des cours des hydrocarbures et des métaux et sur la mise en œuvre dans les pays de la région de réformes visant à remédier aux déséquilibres macroéconomiques et à stimuler l'investissement. Selon les données rendues publiques par l'administration des douanes du Mali, ce sont au total 149,125 milliards de francs CFA, environ 280 900 000 dollars de recettes douanières qui ont été mobilisées au 31 mars 2018. Ces recettes sont légèrement inférieures de 7,155 milliards de francs CFA, environ 3,4 millions par rapport aux prévisions de recettes initiales qui étaient de 156,280 milliards de francs CFA, environ 295 millions de dollars sur cette période, ce qui correspond à un taux de réalisation de 95,4%. Cap sur le Mozambique qui bénéficiera d'une nouvelle période de grâce pour le remboursement de sa dette envers la Chine et l'Inde. L'accord qui concerne 2,2 milliards de dollars de dette envers les deux pays s'inscrit dans une logique de soutien à ce pays d'Afrique australe. Le but est de libérer les ressources afin de financer des plans dits prioritaires.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Suite des matchs de cadrage retour de la Coupe CAF.
Oui, les rencontres et les premières qualifications, notamment Enimba qui a fait match nul 0-0 au Nigeria. Suffisant après le match nul un but partout en Afrique du Sud à l'aller contre Wits. Qualification également des Young Africans de Tanzanie malgré leur défaite 1-0 en Éthiopie sur la pelouse de Weleita Dicha. Ils l'avaient emporté 2-0 à l'aller. Les Ghanéens d'Adwana Stars ont perdu 2-1 contre le Fossa Junior de Madagascar. Mais l'avait emporté 6-1 à l'aller. Il se qualifie donc. Qualification aussi grâce au but marqué à l'extérieur d'Al Hilal du Soudan qui s'est incliné 3-1 face à Akwa United du Nigeria. Mais Al Hilal l'avait emporté 2-0 à l'aller. Les autres rencontres à suivre, le Djoliba à Bamako contre le MFM du Nigeria, Super Sport United contre Gormaya du Kenya ou encore le Raja Casablanca face au Zanaco de Zambie. Hier, la SEC Mimosa s'était qualifiée après le match nul 0-0 obtenu en Algérie sur la pelouse de Belouizdad. La Mancha de Pointe-Noire avait été éliminée après une lourde défaite 5-1 devant l'AS Vita Club de Kinshasa. L'USM Alger s'était facilement qualifié 4-0 en battant Plateau United. Enfin, Al Masry d'Égypte avait éliminé le CF Mounana 2-1.
Le Barça accroché en Liga.
Avec un 11 expérimental et sans Lionel Messi au coup d'envoi, Barcelone n'a ramené qu'un petit point de son déplacement au Celta Vigo hier soir. Ousmane Dembélé a marqué. Ces deux points perdus ne devraient pas empêcher les Barcelonais, devant au classement, d'être sacrés champions.
L'Inter de Milan en forme hier soir.
Avant la suite de la 33e journée du Calcio ce soir, l'Inter Milan est 3e avec 2 points d'avance sur la Roma et la Lazio. L'Inter qui s'est facilement imposé 4-0 contre Cagliari.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, les Raptors qui ont croqué les Wizards. Après une première mi-temps record, Toronto emmené par DeMar DeRozan a contrôlé Washington pour s'imposer 139-119 et prendre l'avantage dans cette série de victoires à zéro. Toujours dans la conférence Est, Boston a également creusé l'écart en remportant à domicile un deuxième match consécutif face à Milwaukee, 120-106. Enfin, dans la conférence Ouest, la Nouvelle-Orléans s'est imposée pour la seconde fois en 2 matchs sur le parquet de Portland, 111-102.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. Au Nigeria, les responsables militaires de plusieurs pays africains participent à Abuja à une conférence co-organisée par les États-Unis pour renforcer la coopération dans le domaine de la lutte antiterroriste en Afrique. Le correspondant de VOA Afrique au Nigeria, Gilbert Tomba, a assisté aux exercices militaires en marge de ce sommet et voici son reportage.
Le sommet réunit les représentants des chefs des armées des pays africains comme le Cameroun, l'Égypte, le Kenya, le Sénégal ou le Burkina Faso. Objectif principal de la rencontre, parler de la sécurité sur le continent, mais aussi de la menace djihadiste dans certaines régions d'Afrique. Boko Haram au Nigeria, Agmi au Mali et dans la région ouest africaine, les Chebab en Afrique de l'Est. La menace est réelle et c'est pourquoi en plus des débats autour d'une table, il y a aussi des exercices militaires pendant cette rencontre. Le général de brigade de Kwame Ndri Julien, chef d'état-major de l'armée des terres de Côte d'Ivoire.
C'est une action classique où il y a des otages qui sont pris et les forces spéciales appuyées de l'aviation viennent libérer les otages. Et donc, c'est une action classique dans les armées. Et nous sommes très heureux de voir que l'armée nigériane est capable de mener de telles opérations.
L'intérêt croissant des États-Unis pour la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique est illustré par la présence des militaires américains dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Niger et au Mali depuis Barack Obama. Son successeur Donald Trump poursuit la même politique. Donald Trump qui doit recevoir dans ce cadre son homologue du Nigeria, Muhammad Buhari, lors de leur prochaine rencontre à Washington le 30 avril. Le général de brigade, Eugène Lebeuf, est le commandant par intérim de l'armée américaine en Afrique.
Nous jouons un rôle d'assistance à nos partenaires africains dans la lutte contre les organisations extrémistes. Donc, notre travail, c'est d'aider à identifier quels sont les besoins et aider à trouver de l'assistance dans le cadre de notre coopération.
L'ancien secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, avait durant sa tournée dans 5 pays africains, dont le Nigeria, sa dernière étape avant son limogeage, promis le soutien militaire de l'administration Trump dans ce domaine. Pour le chef d'état-major de l'armée des terres du Sénégal, ce partenariat a un intérêt commun. Le général de brigade Cheikh Wade.
C'est un partenariat, je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ennemis cloisonnés. L'ennemi est global, il est partout et il est nulle part. Donc tout le monde est concerné par cette menace qui est devenue une menace mondiale. Il n'y a que de façon unie, et dans l'action, dans la solidarité et dans la fraternité que nous pouvons vraiment combattre cet ennemi.
Le Nigeria où se déroule le sommet des militaires fait face à une insurrection sanglante du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est il y a plusieurs années. Mais le chef d'état-major de l'armée nigériane estime qu'avec ces démonstrations réalisées par ces hommes, le Nigeria est prêt avec le soutien nécessaire pour faire face à un déploiement rapide. Le lieutenant général Tukur Burataï.
C'est
Ces démonstrations montrent notre capacité en termes de déploiement rapide. Donc avec l'obtention de logistique comme les moyens de déplacement, nous aurons les moyens d'atteindre toutes ces localités où on ne pouvait pas arriver à temps.
Ces sommets de 4 jours offrent également aux pays participants la possibilité de partager leurs expériences sur la lutte antiterroriste et de trouver une approche commune pour combattre les menaces et les crimes transnationaux tels que la prolifération des armes légères et le terrorisme en Afrique. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur le paludisme. Cette maladie est en progression avec 5 millions de cas supplémentaires en 2016. Comment expliquer cette augmentation? Une conférence est ouverte dimanche au Sénégal pour faire le point sur la lutte contre le paludisme. Quelles sont les politiques mises en œuvre? Où en sont les recherches scientifiques? Le vaccin en cours d'évaluation sera-t-il à la hauteur des espoirs? On en discute dans Washington Forum. Morgan Guiriec avec vous. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA.
Suite aux affrontements meurtriers entre Peul et Dogon dans le centre du Mali, les bureaux de jeunesse des deux communautés ont tenu hier une conférence de presse conjointe à Bamako sous la bénédiction de leurs leaders nationaux respectifs. Ces deux derniers, Mamadou Togo, président de Jina Dogon, et Abdoulaziz Diallo, président de Tabital Poulagou, avaient appelé au calme et à la retenue lors d'une déclaration commune il y a un mois. Nathalie Barge a rejoint Mamadou Togo qui réitère son appel à déposer les armes et invite à de nouvelles rencontres intercommunautaires dans le cercle de Koro.
Entre Peul et Dogon, il n'y a aucun problème à partir du moment où les présidents des associations se côtoient, parlent ensemble, mangent ensemble, commercent ensemble et font tout ensemble. Et les jeunes également suivent les pas. Nous avons vu que l'escalade ne s'arrêtait pas et nous avons proposé à ce que tout le monde soit désarmé. Les chasseurs, les peuls, lorsqu'ils seront tous désarmés, celui qui va porter une arme après ce désarmement, il devient hors la loi et on doit l'arrêter et lui donner le traitement qu'il mérite juridiquement.
Est-ce que vous condamnez les propos du maire de la commune de Koporona qui avait exigé que tous les peuls quittent cette commune ?
Tout à fait. J'ai même appelé, parce que moi je suis de Koporona, j'ai appelé, j'ai pas pu mettre la main sur le maire, j'ai eu son adjoint. Et je lui ai demandé quelle est la folie qui les a poussés à faire des déclarations de ce genre. Et on me dit que non, que le maire a agi tout seul. Il n'a pas consulté le conseil communal. Et quand des gens l'ont interrogé, il a dit qu'il avait des armes braquées sur lui. Et s'il ne le disait pas, on allait l'assassiner. Alors moi, j'ai dit qu'il fallait qu'il meure en martyr. Ça vaut mieux que de dire à tous les peuples de déguerpir. J'ai salué l'action du gouvernement qui promptement a pris des mesures pour suspendre ce maire-là. Il y aura des poursuites judiciaires également qui sont engagées. Nous voulons la paix. On ne pourrait pas s'accommoder avec des gens qui tiennent des propos va-t-en-guerre.
Des déclarations sont faites donc à Bamako entre les deux communautés. Est-ce qu'il est envisagé de faire la même chose, mais exactement à l'endroit où il y a ces tensions ?
Oui, personnellement, j'ai appelé mon chef d'arrondissement, j'ai appelé les autres membres du conseil, j'ai proposé à ce que tous les chefs de village soient réunis en assemblée et qu'on dise aux chefs de village que tous les peuples restent à leur place. Ils ne bougent pas. Et que rien ne va leur arriver parce qu'ils seront protégés.
Est-ce qu'il est prévu des rencontres régulières entre ces deux communautés ?
On est en train de travailler à ça. C'est-à-dire que les rencontres intercommunautaires vont se poursuivre.
C'était Mamadou Togo, président de Gina Dogon, joint à Bamako.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
L'ancienne première dame des États-Unis, Barbara Bush, est décédée hier à 92 ans. Elle était aussi la mère du 43e président américain, George Bush, le président Donald Trump. Ses prédécesseurs, Barack Obama, Bill Clinton et Jimmy Carter, ont salué sa mémoire. Les drapeaux américains sont en berne sur tous les bâtiments et espaces publics. Eric Manelkiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
J'ai travaillé pour son mari quand il était président. Moi, j'ai été vice-ministre pour les affaires africaines. Donc, j'ai eu beaucoup de contacts avec elle. Et aussi, quand nous avons reçu des chefs d'État africains à la Maison-Blanche, elle a reçu des épouses des chefs d'État africains. Elle était toujours très gentille avec elle. Elle a invité pour prendre le café ou prendre le thé. Elle a fait toujours bonne impression. Et aussi avec moi et ma femme, nous étions toujours très confortables dans sa présence. Elle était toujours gentille avec tout le monde.
Pour vous, qu'est-ce qui distingue Barbara Bush des autres premières dames que les États-Unis a connues?
Chaque première dame a sa personnalité. Il y avait des premières dames qui faisaient rien, qui étaient maîtresses de maison et c'est tout. Donc, Madame Bush, elle a passé tout son temps à faire du bien pour la population américaine et surtout pour les gens pauvres. Dans certaines villes où il y a des gens qui étaient au bas de l'échelle, la classe ouvrière, elle a fait beaucoup pour ces gens-là.
Que retenez-vous de ses accomplissements?
Elle a décidé que, comme première dame, elle devait faire quelque chose. Et elle a vu qu'aux États-Unis, malgré le fait que nous sommes un pays industrialisé, qu'il y a pas mal de gens qui étaient analphabètes, manque d'éducation, mauvaise éducation, etc., surtout parmi les minorités, les Afro-Américains, les hispanophones. Elle a fait un grand effort pour que dans les écoles, les enfants, les élèves pouvaient apprendre à lire et écrire. Donc ça, c'était son effort. Et le monde de l'enseignement est très heureux sur ce qu'elle a fait pendant ce temps quand elle, son mari était vice-président et président.
On la surnomme la surveillante, celle qui surveille pour faire appliquer la loi. Est-ce que vous sauriez pourquoi exactement ce surnom?
Elle surveillait surtout que tout ce que son mari a fait est respecté. Je crois que le plus important conseiller pour son mari, le président. Et c'est pourquoi on dit que s'il y a des gens qui travaillaient pour le président qui ne faisaient pas leur travail bien, elle était là pour mettre l'ordre.
Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint au département d'État.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Voilà, fin de cette édition. Merci à Sims Loumami et à Cédric Franklin. Restez en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude, appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA, a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni des directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le Dr G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Des représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. Le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois soutenus par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants tels que l'ICAP de l'Université de Columbia aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de SIDA-VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet CIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.